Alors, c'est ça. Je voulais t'entendre. Ah, bonjour, d'abord. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Bon coup, mauvais coup. La voie est libre. On va parler de la guerre commerciale entre Trump et la Chine. Mais juste avant qu'on en parle, comment tu réagis quand tu entends un homme comme M. Dehaye, là, qui veut se lancer indépendant, puis il veut servir ses citoyens, puis il veut pas de parti?
Ben, l'affaire, il veut pas de parti. Je trouve ça brave de sa part et courageux. Mais les chances de se faire élire comme indépendant, il faudrait vraiment qu'il soit super populaire, parce que moi, je pense que le calcul qu'on fait d'habitude, c'est le candidat local peut représenter jusqu'à 10 % du vote quand tout va bien.
Juste là, c'est
ouais,
très,
c'est quand tout c'est va très, super bien puis que c'est une vedette. Là.
Vraiment. Moi, je pense qu'il va faire, dans son patelin, là où il est maire et bien connu, puis dans les villages autour, il peut faire un très bon score. Mais les circonscriptions fédérales sont tellement grandes. Puis dans ce cas-ci, il se présente à Trois-Rivières. Le monde de Trois-Rivières, là, ils vont voter aussi sur le bulletin. Il va avoir l'ancien maire, l'évêque. Là, ouais. T'sais, fait que ça sera pas évident.
Non, ça sera pas évident. Puis l'évêque, il était assez populaire en son
temps. Oui, puis ouais, c'est
ça. Mais quand même, pour revenir à M. Dehaye, que je ne connais pas, tu sais, il y a toujours... Enfin, moi, j'ai toujours aimé, oui... des députés comme Jean-Claude Malépart, le libéral. Ça, oui, c'était là, oui. Un vrai de vrai populiste. Là.
Un homme vrai, proche de moi, je l'ai bien connu aussi. Que j'étais, tout était journaliste, moi j'étais petit page au moment où Malépart était au Parlement.
Et c'est drôle d'ailleurs, M. Mulroney, qui était donc un conservateur évidemment, et notre ami Jean-Claude qui était un libéral. Mulroney avait une sorte d'affection particulière pour Jean-Claude Malépart, parce que quand Malépart l'accrochait des fois dans le lobby des communes, puis tout ça, c'était pour y parler. Il parlait avec une passion incroyable de ce qui peut apparaître comme des toutes petites affaires, mais qui, pour lui, là, ça concerne tel laissé pour compte dans son comté.
Malépart se battait pour son monde.
Il se battait pour le petit monde.
Ah oui, oui, il était...
Puis il n'y avait pratiquement aucune partisanerie.
Laurier-Sainte-Marie.
Oui, Laurier-Sainte-Marie. Centre-Sud, c'était lui, je pense. Donc, Jean-Claude Malépart, à mon avis, avait une grande admiration pour lui. Il aurait aimé ça avoir plus de Jean-Claude Malépart dans son caucus.
Oui, absolument.
Alors, effectivement, des députés comme M. Dehaye, que je ne connais pas encore une fois, mais à la lumière de ce que j'ai entendu de ton entrevue avec lui, c'est souvent ce qui vient ramener la Chambre des communes là où elle devrait être, tu sais. Pas en train de se poser des questions, quel nouveau bebel je pourrais trouver fait plaisir au monde. Non, c'est des gens qui arrivent et qui disent, moi, dans mon comté, le problème, c'est X, Y, Z, puis il n'y a jamais personne qui a voulu le régler.
Ouais.
Puis si vous ne le réglez pas, ben, vous rendre la vie infernale, comprenez-vous? Je ne vous lâcherai pas d'un iota.
Ouais.
Et ça, ce
T'as
genre
raison.
De député-là, d'abord, ils finissent par aller chercher beaucoup de choses pour leur commettant, parce qu'effectivement, tu sais, les humains sont des humains. La haute fonction publique à Ottawa, par où ça finit par passer, ils se disent, ah, ouais... On est aussi bien d'y dire oui, c'est moins de trouble que dire non.
C'est vrai? C'est beau ce que tu viens de dire.
Oui, mais je comprends.
Aussi bien dire oui, c'est moins de trouble que dire non, parce qu'il ne te lâchera pas d'une semaine.
Il ne te lâchera pas. J'ai un ami qui est décédé, malheureusement, au début de janvier, qui est un très, très proche ami à moi, Pierre Debanet. Lui, il n'y avait pas ce style de M. Dehaye. Au contraire, il était plutôt précieux, même aux yeux de certains.
Oui.
Sauf qu'il était proche du monde, comme genre rarement.
Le député de Matane.
Député de Matane. Il a amené toutes sortes d'affaires dans son comté, l'Institut Maurice Lamont.
C'est lui,
de recherche
ça, hein?
En océanographie. La décentralisation d'approvisionnement et services, ceci, cela, cela. Et Pierre Debanet, à Ottawa, c'était connu quand il partait sur un sentier parce qu'il voulait obtenir quelque chose pour quelque chose dans son comté. C'était rendu dans la fonction publique. Il disait, dis oui, ça va être moins de troubles. Je comprends là, qu'il va falloir tordre les règles un peu, mais c'est mieux ça que de l'avoir sur le dos pendant 3 ans de temps. Il arrêtait jamais, Pierre arrêtait jamais, puis il gagnait.
Puis il était ministre aussi à un moment donné.
Ben, il était ministre en plus, mais il a été longtemps député avant d'être ministre. Il a été 8 ans député avant d'être ministre, 9 ans.
Très bien, alors je suis content qu'on... Je suis content que...
Toi, tu me disais que tu avais eu un faible pour Adrien Lambert.
Adrien Lambert, député du Crédit social, mesdames et messieurs.
Le leader parlementaire du Crédit social sur Réal-Cahouette.
Moi, quand j'ai commencé à écouter la...
C'est un géant, un colosse.
Ah, c'est le député de Bellechasse. Moi, là, j'ai commencé à écouter l'émission La semaine parlementaire. Ça se passait le samedi, je pense, de midi à 1h. Il prenait comme les meilleurs moments des discours de la Chambre des communes. Mm-hmm. Puis là, il dit, écoute, t'as 12 ans, 13 ans. Il dit, bon... Le monde, ils vont dire, t'es fou, pourquoi t'écoutais ça? Ben, j'aimais ça. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert Bob Ray, parce qu'il faisait des discours en français. Sven Robinson, le néo-démocrate,
aussi.
Puis Adrien Lambert. Adrien Lambert, là, c'était un populiste, un créditiste, mais proche des gens, le gros bon sens, il parlait vrai. pas de flasage.
Il avait l'air d'un peu d'un autre temps, par contre.
Ben oui, il faisait un peu Union nationale.
Il faisait un petit peu Duplessis,
oui. Ben oui, mais j'aimais son... Ben c'était un agriculteur.
Ouais, ouais.
J'aimais son espèce de côté terre à terre, tu comprends?
Un cultivateur, comme
oui,
on disait
à l'époque. Oui, mon ami. Il essayait pas de faire semblant puis de faire le prétentieux.
Parce qu'une fois, il nous avait fait tellement rire.
Pétait pas de la broue, comprends-tu?
Je peux pas m'empêcher de me rappeler qu'à un moment donné, là, je ne sais plus laquelle attaque terroriste, que c'est pas quand il avait fait exploser des avions El Al dans le désert, mais un peu. Il y a quelqu'un qui obtient la tenue d'un débat d'urgence à la Chambre des communes, puis au nom du Crédit social, c'est le leader parlementaire qui prend la parole, Adrien Lambert, et il avait commencé comme ceci. « Nous sommes ici ce soir pour parler des terroraux. » Là, il s'arrête. Attends. Là, il recommence. Nous sommes donc ici ce soir pour parler des terroraries. Nous autres, on était dans les tribunes. On riait, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, plus il continuait, puis c'était des terroraries, raroraries. Ça a fini par être des terroristes. Puis là, il dit, il paraît que ça concerne la Palestine. Il dit, y a-tu quelqu'un ici qui pourrait nous installer une carte pour nous montrer c'est où, sur la Palestine?
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est l'autre côté de l'affaire.
Oui,
c'est qu'à un moment donné...
Non, mais c'était drôle.
Oui.
C'était drôle.
Il était-tu assumé?
Ah, complètement.
Non, il savait, là. Il savait qu'il faisait rire de lui un peu, là, non?
Probablement, oui. Probablement. Ouais, mais c'était un homme très affable. Hein. Il était très, très gentil.
Il donnait un peu son show, là. On comprend
qu'il les terroriries, non, ça, je pense qu'il s'est enfargé bien comme faux, puis il était nerveux.
Bon. Alors, écoute bien. On va s'arrêter. On voulait parler de Trump. Faut en parler de Trump parce que c'est pas mal important là, dans la géopolitique internationale. Là, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ça, tu peux être sûr que ça va finir par nous rattraper. On va s'arrêter et au retour, on fait le point sur ce conflit qui n'est pas réglé. Et Luc va nous dire où il pense que ça va se régler et si ça se règle, dans un instant.
Drainville PM. La voix est libre.
Alors, parlons-en, donc, de cette négociation qui n'en finit plus de finir entre les États-Unis.
C'est une guerre commerciale, là. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit bel et bien d'une guerre commerciale.
Oui, mais là, Trump menace d'imposer d'autres tarifs sur les produits chinois. Tu penses qu'il va le faire?
Ah oui, il va le faire. Ils sont là. Ils sont à la confrontation. Et les gens doivent comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi un déficit commercial? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi on parle. Et je vais le résumer de la façon suivante. Disons que le Canada achète 1 000 $ de biens et services des États-Unis, okay? Puis que les États-Unis en achètent 400 au Canada. Mais le Canada vient d'avoir un déficit commercial de 400 $. Tu comprends-tu? C'est ça la différence. Normalement, pour que l'économie mondiale se porte bien, il faut qu'il y ait un relatif équilibre entre ce que tu achètes et ce que tu vends. Or, les Chinois, et là-dessus, tiens, me voici, mesdames et messieurs, écoutez bien, je vais me porter à la défense de Trump. La situation de la Chine face aux États-Unis et même face à l'Occident ne pouvait pas éternellement durer. Le déficit commercial à l'heure actuelle des États-Unis avec la Chine, c'est 420 milliards de dollars.
Donc, ils achètent 420 milliards de plus qu'ils vendent.
Oui, c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est beaucoup, beaucoup.
En fait, c'est pas vraiment viable à long terme. Ça n'a presque pas de bon sens. Alors, Trump qui veuille corriger la situation parce que la Chine, c'est le nouveau gros joueur, c'est la nouvelle superpuissance du monde. Et ils sont des grands commerçants, des grands manufacturiers, mais ils ne sont pas tout à fait alignés avec les autres quand ça vient, par exemple, la monnaie, les ententes internationales sur comment on reconnaît la valeur d'une chose par rapport à l'autre, les brevets internationaux sur des inventions venues d'ailleurs, ainsi de suite. Alors, la Chine... C'était le temps que quelqu'un leur dise « Écoute, tu ne peux plus continuer comme ça, on ne tolérera pas ça. » Maintenant, les Chinois ont, étonnamment, pas dit « C'est fou ce qu'il dit, Trump! » Ils ont comme essayé de jouer avec lui.
Oui, ils ont négocié.
Ils ont négocié, puis ils sont rendus pas mal proches d'une entente.
J'allais dire, à un moment donné, ils sont venus très proches. En tout cas, c'est ce qui avait été rapporté.
Il y a deux semaines.
Oui, voilà.
Et certains disent même que Trump fait exprès ce qu'il a dit il y a deux semaines. Ce qu'on a appris il y a deux semaines, donc Trump, au lieu de sauter sur l'occasion puis de conclure l'entente, c'est si important, il s'est rendu compte que ça pogne avec ces gens. Alors,
Avec sa base.
Alors, il continue à leur taper.
Oui, mais sauf que là
ça va devenir...
Les marchés boursiers aiment moins ça. Là,
ben là ça commence à faire trembler les marchés boursiers.
Ben ouais.
Il s'agit de sommes tellement, tellement, tellement colossales qui sont en jeu qu'il ne peut pas en être autrement. Alors là, Trump a décidé de faire monter encore une fois la pression.
Mais tu penses-tu que ça va finir par une entente? Penses-tu qu'ils vont finir par s'entendre? Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix de s'entendre.
Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que les deux vont prendre la claque. Ben... Parce que tu comprends, la théorie de Trump qui veut, c'est qu'il faut qu'on soit à égalité, il faut qu'il y ait un équilibre commercial, c'est impossible.
Ça n'arrivera pas.
Pourquoi? Parce que tu prends l'exemple le plus frappant, Walmart. OK, Walmart, c'est l'empire mondial du commerce au détail.
C'est du made in China.
Et comment ils font leur argent? Ils achètent à pas cher des affaires faites en Chine, puis ils vendent à plus cher ailleurs dans le monde.
C'est pas tout seul, ils sont pas tout seuls.
Mais les gens oublient que si on avait l'équilibre commercial, à l'heure actuelle, là, au rythme où vont les choses, ce sont les gens en bout de ligne qui vont payer pour ça. Si je dis, toi, Walmart, tu peux plus importer ces produits-là, on va mettre des tarifs de fou dessus de 85%, puis ainsi de suite.
Tu vas être obligé de fabriquer ça aux États-Unis.
Ce sont les gens qui vont les payer. Tu comprends-tu
ça? C'est ça que je te dis.
Bernard Drinville, quand on va aller au magasin, vas le payer, 85%.
Ça va faire monter les prix. Puis là, on parle pas de
ça va créer de l'inflation.
Et là, une hausse des taux d'intérêt, possiblement.
Tout vient avec ça. Il y a un danger de ralentissement économique extrêmement important.
C'est pour ça qu'il va falloir qu'à un moment donné, ils règlent.
Mais je pense que étonnamment, à l'heure actuelle, c'est Trump qui est en situation de faiblesse parce que la Chine est considérablement plus diversifiée depuis une dizaine d'années. Ils sont en train de construire le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'univers, ce qu'ils appellent la nouvelle route de la soie. Mmh. C'est-à-dire qu'ils construisent des trains à grande vitesse, des aéroports flambant neufs, qui relient ce qu'on appelle, on a l'habitude de parler de l'Europe et de l'Asie. De plus en plus, en géopolitique, les gens parlent de l'Eurasie parce qu'au fond, c'est le même continent. Mais eux autres, ils sont en train d'en faire un continent. Ils vont partir l'ancienne route de la soie, antique, là. Mais sauf que ça va être fait avec des TGV, avec des aéroports, avec tout ce que tu veux, c'est incroyable. C'est un projet qui se compte par milliers de milliards de dollars et qui va de l'avant, là. C'est en train de se développer, cette affaire-là. C'est par là que les pipelines vont passer, mais c'est aussi par là que les biens et services vont passer. C'est la route que la Chine va utiliser pour inonder nos marchés. Et il y a eu un transfert de richesses massif vers l'Asie depuis à peu près 20 ans et en accéléré depuis 10 ans. Ce qu'on voit, là, c'est que la Chine, ils sont loin d'être dans le trouble. Le trouble, c'est Trump qui l'a.
Non, je ne suis pas convaincu, moi.
À l'heure actuelle, oui.
Je pense que Trump, à partir du moment où la Chine a besoin du marché américain, veut pas que Trump ait un bon rapport de force. Il y a encore un très bon rapport de force à la table, là. Les Chinois, c'est toi-même qui le dis, ils nous vendent, ils vendent beaucoup plus aux États-Unis que les États-Unis leur vendent à eux. Fait que ça donne à Trump un immense avantage. Maintenant, moi...
Il peut pas mettre son pays dans la dèche.
Mais c'est ce que je dis.
Une guerre comme
ce que je dis, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il trouve un arrangement, qu'il trouve une entente. Parce qu'il peut pas se permettre une guerre commerciale avec la Chine.
Il est en guerre commerciale.
Ouais, mais il y a encore des étapes à franchir.
Les
tarifs, là, les nouveaux tarifs qu'il annonce, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'il va les imposer.
Moi, je pense que oui.
J'ai hâte de voir s'il va les imposer.
Moi, je pense qu'il va le faire. Ouais.
S'il le fait, ça se peut que ce soit lui qui en paye le prix.
Oui, parce que les Chinois sont en position de force. Ils savent très bien qu'il y a un point où l'élastique va casser. Parce que quand là, le prix majoré de 85% par des tarifs va se transférer vers le consommateur va commencer à trouver ça pas drôle.
Si Trump...
Et en termes macroéconomiques, si ça se met à créer de l'inflation, ce qui serait normal.
Mais c'est ça, mais Trump, il sait ça. C'est pour ça que d'après moi, il le fera pas.
Pas sûr qu'il sait.
C'est pour ça qu'il, d'après moi, il le fera pas.
Mais ce qu'il sait.
Trump, il arrête pas de se péter bretelles depuis qu'il est là, que l'économie va bien puis que les marchés boursiers sont bons. Ben, s'il fait ça, il va scraper. Il risque de créer un problème économique puis il risque de nuire au rendement boursier.
Moi, je pense que la magnifique santé de l'économie américaine, ça durera pas éternellement. C'est cyclique, ces affaires-là. Et le cycle s'en vient.
Et d'aller appliquer des tarifs supplémentaires sur la Chine, ça n'aidera pas. En tout cas, on verra bien, mon Luc. Je te souhaite une belle fin de semaine.
Bon week-end.
On s'arrête. C'est Christian Page. Tout de suite après la pause.